Laudetur Jesus Christus.
Des tirs d'artillerie sporadiques entendus ce matin dans la ville de Ras El Ain, mais un calme relatif régnerait globalement à la frontière entre la Turquie et la Syrie, au lendemain d'une trêve arrachée à la Turquie par Washington. On y revient dès le début de ce journal. Les Libanais exsangues, ils sont dans la rue pour demander la chute du gouvernement. Celui-ci avait décidé, pour renflouer les caisses de l'État, de facturer à partir de janvier chaque appel passé via WhatsApp et Viber 20 centimes de dollars la conversation téléphonique. À moins d'un mois des législatives, la question catalane ravivée en Espagne, 9 politiques indépendantistes sont condamnés à des peines de prison et c'est toute la région qui se met en grève ce vendredi. La mobilisation des sécessionnistes catalans est de plus en plus violente, près de 100 blessés hier, 97 personnes arrêtées depuis lundi. Et puis enfin, système alimentaire en danger, la FAO et la Commission européenne pointent dans un rapport les risques de pénurie et de famine dans certains pays, notamment en Afrique, sous l'effet du réchauffement climatique et des conflits armés.
Le journal Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Les Kurdes dénoncent il y a quelques minutes une violation du cessez-le-feu. Des combats sporadiques se dérouleraient encore ce matin à Ras El Ain, une ville frontalière du nord-est syrien. 5 civils auraient été tués dans des raids. La Turquie qui a pourtant promis aux États-Unis de suspendre son offensive pendant 5 jours, promettant aussi d'y mettre fin après un retrait des forces kurdes de ce secteur. L'annonce avait été faite hier par le vice-président américain Mike Pence à l'issue d'une rencontre à Ankara avec Recep Tayyip Erdogan, les précisions d'Anand Lauer.
C'est un cessez-le-feu provisoire et conditionnel. Ankara va suspendre son opération pendant 5 jours pour laisser le temps aux forces kurdes de se retirer sur 20 miles, soit 32 km, au-delà de la frontière turque. C'est précisément la profondeur de la zone de sécurité réclamée depuis des mois par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Affirmant que les forces kurdes avaient déjà commencé à quitter la région, le vice-président américain Mike Pence a précisé que l'accord avec la Turquie prévoyait aussi que cette dernière ne mène aucune action militaire contre Kobané, la ville symbole du nord syrien qui avait scellé en 2014 le partenariat de Washington avec les forces kurdes lorsque ces dernières l'avaient arraché au groupe État islamique. « Nous avons obtenu ce que nous voulions », s'est félicité de son côté le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Çavuşoğlu, assurant que la zone de sécurité serait sous le contrôle des forces armées turques et que les combattants kurdes abandonneraient leurs armes lourdes selon l'accord avec Washington. Mais le ministre turc est aussi resté prudent. « Nous suspendons l'opération, nous ne l'arrêtons pas », a-t-il insisté, expliquant qu'Ankara ne mettrait fin à son offensive que lorsque tous les combattants kurdes auraient évacué la zone. À Istanbul, Anand Lauer pour Radio Vatican.
Et depuis son lancement le 9 octobre dernier, l'offensive turque a fait près de 500 morts, dont une centaine de civils. Amnesty International évoque aujourd'hui des crimes de guerre, dont des exécutions sommaires. Hier à Bruxelles, les dirigeants de l'UE ont renouvelé leur condamnation de cette intervention militaire unilatéralement menée par la Turquie. Elle provoque des souffrances humaines inacceptables, compromet la lutte contre Daesh, menace gravement la sécurité européenne. Les Européens qui redoutent l'évasion de 12 000 djihadistes détenus par les Kurdes en Syrie, dont plus de 2 500 étrangers. Ce vendredi, le chef de la diplomatie française a dit travailler avec l'Irak à une coopération judiciaire et pénitentiaire sur la question des djihadistes français actuellement détenus en Syrie, mais qui ont combattu en Irak. Révolution, le peuple veut la chute du régime au Liban. Après une nuit de manifestations, la colère ne faiblit pas ce vendredi contre le gouvernement de Saad Hariri. Il est accusé d'affairisme, mais c'est une de ses décisions qui a mis le feu aux poudres sur fond de crise économique, avec une dette qui s'élève à 150% du PIB. Eh bien, l'exécutif avait décidé d'imposer une taxe sur les appels effectués via les applications de messagerie Internet. Les précisions de Chloé Doma.
Ce matin, le Liban s'est réveillé paralysé. La plupart des grands axes routiers sont encore bloqués par des pneus enflammés. Les écoles et les banques sont fermées. Les administrations publiques observent une grève générale. Les manifestations ont déjà commencé à Beyrouth et vont se poursuivre durant toute la journée. Hier soir, des milliers de personnes ont crié leur colère contre le gouvernement à travers tout le pays. Les manifestants, dont beaucoup de jeunes, ont bloqué les routes et brûlé des pneus. 2 personnes sont mortes par asphyxie. La raison, le ministre des Télécommunications avait annoncé plus tôt dans la journée vouloir taxer les utilisateurs de WhatsApp et autres applications mobiles permettant de téléphoner gratuitement sur Internet. Cette mesure, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Libanais, qui subissent des mesures d'austérité, dont une baisse des retraites et une hausse de la TVA depuis le début de l'année, en ont ras-le-bol. Ils accusent le gouvernement de corruption et demandent sa démission. Selon les Nations Unies, 1/3 des ménages libanais vit dans la pauvreté et ne peut subvenir à ses besoins. Le taux de chômage dépasse les 25%. Chloé Doma à Beyrouth pour Radio Vatican.
coup de frein à la croissance chinoise, elle est au plus bas depuis 27 ans. La croissance du PIB est tombée à 6% sur un an au dernier trimestre. Elle a fortement ralenti au moment où la guerre commerciale avec Washington, en revanche, s'intensifie. Et ce, malgré les efforts de Pékin pour stabiliser la conjoncture. Les Européens sous le coup de nouvelles hausses de douane américaines. Après l'acier et l'aluminium, les taxes douanières punitives s'appliquent désormais sur 7,5 milliards de dollars de produits européens, avions, vins français, fromage italien ou encore whisky écossais sont visés par la politique résolument protectionniste de Donald Trump, le président américain qui pourrait mi-novembre taxer également les importations de voitures européennes. Des barricades enflammées érigées dans les quartiers chics de Barcelone après la condamnation de leur leader à de lourdes peines de prison en Espagne, eh bien les indépendantistes catalans témoignent dans la rue et parfois de manière violente de leur colère, de leur frustration, 2 ans après la tentative de sécession de la Catalogne. Partie ce matin de toute la région, des marches indépendantistes dites de la liberté sont en train d'arriver à Barcelone. On vient de joindre sur place notre correspondant Luis Marsans.
Des dizaines de milliers d'indépendantistes sont en train d'arriver à Barcelone. Ils marchaient depuis mercredi. Ils sont partis de 4 points différents de la Catalogne et toutes ces personnes sont en train d'arriver à Barcelone pour cette immense manifestation qui aura lieu cet après-midi et ce soir. La région tourne au ralenti aujourd'hui avec une grève qui est assez suivie, notamment dans la fonction publique catalane, notamment dans les écoles. Les routes et les axes routiers, beaucoup d'axes routiers sont bloqués. Le passage vers la France est bloqué également et on sent vraiment une journée de très forte mobilisation, une journée de colère aussi qui pourrait se terminer encore par une nuit d'émeute. La nuit dernière encore, beaucoup de violence dans les rues de Barcelone avec des conteneurs en feu et pour la première fois des affrontements entre des militants indépendantistes radicaux et des militants d'extrême droite.
Luis Marsans, notre correspondant à Barcelone. Un accord de divorce a donc été trouvé avec Bruxelles. Reste à convaincre les députés britanniques à voter demain midi en faveur du texte. Depuis hier, Boris Johnson, de retour à Londres, multiplie les coups de téléphone aux députés dans une entreprise de persuasion qui s'annonce difficile. À Westminster, la Chambre a déjà par 3 fois rejeté un accord. L'actuel Premier ministre a perdu sa majorité et déjà plusieurs partis ont rejeté le nouvel accord, notamment le petit parti nord-irlandais DUP, allié des conservateurs. En cas d'échec demain, Boris Johnson n'aura d'autre choix que de demander à Bruxelles un nouveau report du Brexit. Étape importante du synode des évêques sur l'Amazonie au Vatican dans un peu moins d'une demi-heure. Les rapports des cercles mineurs seront présentés à la presse. Ces groupes linguistiques étaient appelés ces derniers jours à réagir aux interventions libres en salle du synode, à réfléchir en petit comité aux meilleurs moyens d'évangéliser les peuples d'Amazonie. Nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition. Et puis on a appris ce matin que le pape François se rendra cet après-midi au musée du Vatican pour l'inauguration d'une exposition dédiée à l'Amazonie. Fin de la semaine onusienne dédiée à l'alimentation avec la publication ce matin d'un rapport scientifique publié par la FAO et par la Commission européenne. Il détaille les risques de pénurie, de famine dans de nombreux points de la planète. Pour les experts, les crises alimentaires vont se multiplier dans le monde. L'agence onusienne, la FAO, qui s'occupe d'agriculture, d'alimentation, qui rend également un rapport public ce matin sur les pertes et le gaspillage alimentaire, autre enjeu majeur de la sécurité alimentaire. Carola Fabi, statisticienne principale à la FAO, a contribué à l'élaboration de ce texte. Elle nous explique l'ampleur de ces pertes alimentaires, comment les résorber.
Le nouveau chiffre en ce qui concerne les pertes, après la récolte et jusqu'à la distribution, ce chiffre est situé à 14%. Donc 14% de la production agricole n'arrive pas au point de détail, n'arrive pas à être vendue aux consommateurs. C'est bien sûr les fruits et les légumes et les racines et tubercules où l'on a les niveaux des pertes les plus élevés, étant donné la périssabilité des produits. Et bien sûr, donc les caractéristiques régionales et les caractéristiques des produits affectent donc les points critiques à travers la chaîne alimentaire. La prise de conscience à tous les niveaux est certainement le premier pas pour aborder le problème. Surtout au niveau des gaspillages, un petit changement des comportements peut avoir un impact réel et concret au niveau du gaspillage individuel et dans les ménages. Mais la sensibilisation doit être combinée avec des politiques et des stratégies qui fixent des objectifs. Faut-il donner des avantages financiers aux producteurs, des encouragements aux consommateurs? Donc il faut en fait une approche systémique.
Voilà, c'était Carola Fabi, statisticienne principale à la FAO, un élément sonore mis à notre disposition par l'agence onusienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h heure de Rome pour un nouveau tour du monde, de l'actualité internationale et bien sûr du Vatican et de l'Église. Excellente journée.